de la vie et de la terre.
Thème 3, corps humain et santé. Grand A, comportement, mouvement et système nerveux. Chapitre 1, réflexes et communication nerveuse. Introduction. Il est vital pour un organisme comme l'être humain de s'adapter à l'environnement pour survivre. C'est en partie grâce à nos réflexes que nous avons différents comportements adaptés aux situations d'urgence. Si le mouvement est involontaire, suite à une stimulation, il s'agit alors de ce qu'on appelle un réflexe. Par exemple, bam ! Sursauter. Ça, c'est un réflexe. Ou alors lâcher un objet trop chaud. Bouger et réagir rapidement mobilise alors nos muscles, qui sont des effecteurs. Mais entre la perception du stimulus initial et la mise en action des effecteurs, il existe un système de communication d'urgence qui est la communication nerveuse. Alors allons plus loin, allons voir cette communication nerveuse. Quel problème devons-nous nous poser ? Qu'est-ce que le réflexe myotatique et quelles sont les structures impliquées dedans ? Ça, c'est le premier point. Mais deuxième point, comment fonctionne la communication nerveuse qui permet de faire fonctionner ces réflexes myotatiques ? Alors tout d'abord, voyons ce que sont les réflexes. Grand 1, les réflexes. Grand A, définition et différents réflexes. Quelques définitions. D'abord, qu'appelle-t-on réflexe ? C'est une réponse motrice, inconsciente ou involontaire, provoquée par une stimulation sensitive ou sensorielle. Donc vous ne pouvez pas l'empêcher. Qu'est-ce qu'un réflexe myotatique ? Donc quelle est la précision par rapport à un réflexe ? En fait, un réflexe myotatique, c'est la contraction d'un muscle squelettique induit par son propre étirement. Par exemple, le réflexe rotulien, le réflexe achilléen. Il constitue un test clinique pour voir le bon fonctionnement nerveux d'un individu. C'est ainsi que le médecin va vous taper sur la rotule et vous allez envoyer votre pied en avant vers lui. Donc en fin de compte, les réflexes myotatiques permettent une réponse plus rapide que si le mouvement est conscientisé, c'est-à-dire si vous le décidez. Une percussion brusque du tendon musculaire à l'aide du marteau médical provoque une contraction unique du muscle correspondant. Ainsi, les neurologues peuvent tester différents réflexes myotatiques qui vont les renseigner en fait sur le fonctionnement même de la communication nerveuse liée au réflexe, c'est-à-dire au centre nerveux lié à cette commande. Si ça ne fonctionne pas bien, ils iront voir ce centre nerveux. Si ça fonctionne bien, ils iront prospecter ailleurs. Et sinon, à quoi servent ces réflexes ? Les réflexes jouent un rôle dans l'équilibre de la réponse musculaire, puisqu'ils évitent des étirements trop prononcés. Ils permettent entre autres le maintien de posture de l'individu en mouvement dans son environnement et assurent l'équilibre du corps. Comme il s'agit d'un aller-retour rapide vers un centre nerveux, le trajet constitué par un neurone sensitif et un neurone moteur constitue un arc réflexe. Grand B, l'arc réflexe achilléen. Quand on percute le tendon d'Achille, le triceps sural est étiré et avec lui les fuseaux neuromusculaires. Ce sont les récepteurs d'étirement des muscles qui correspondent en fait à des terminaisons dendritiques, des fibres nerveuses sensitives enroulées en spirale autour des cellules musculaires. Attention, les fuseaux neuromusculaires possèdent une double innervation, une innervation sensitive et une innervation motrice. Les fibres afférentes sont sensitives et les fibres efférentes sont motrices. Retenez bien ça. Pour ce qui va suivre, il faut vous appuyer sur le schéma du fonctionnement du réflexe achilléen et le connaître par cœur. Que peut-on voir sur ce schéma ? Petit 1. Le choc du marteau étire le tendon. Les récepteurs sensoriels sont étirés à leur tour et donc activés. Petit 2. Le message afférent est véhiculé par un neurone sensitif qui part du muscle pour aller vers la moelle épinière. Petit 3. Dans la corne ventrale de la moelle épinière, le neurone sensitif fait synapse avec un motoneurone et un interneurone inhibiteur. Petit 4A, le motoneurone du triceps sural est stimulé. Petit 4B, le motoneurone du jambier est inhibé. Petit 5. Le message efférent est acheminé vers le triceps sural. Petit 6A. Le triceps sural se contracte sous l'effet de la stimulation de son motoneurone si le seuil est franchi. Petit 6B. Le jambier se relâche sous l'effet de l'inhibition de son motoneurone. Ainsi, le pied s'étire. Alors qu'avons-nous appris ? Un message nerveux afférent sensitif est alors véhiculé grâce à un neurone sensitif jusqu'au centre nerveux, la moelle épinière. C'est dans la corne dorsale de cette moelle épinière que le relais synaptique s'effectue avec un motoneurone ou neurone moteur. Puis un message nerveux efférent, moteur, est propagé par le motoneurone via son axone jusqu'à une plaque motrice qui fait la jonction avec le muscle squelettique et va le stimuler. Ainsi, quand on regarde un nerf rachidien, il est constitué de deux types de neurones. D'abord, les neurones sensitifs afférents, qu'ils font l'aller des muscles vers la moelle épinière. Et ensuite, les neurones moteurs efférents, encore appelés motoneurones, qui font le retour de la moelle épinière vers le muscle. Si on s'intéresse d'abord aux neurones sensitifs, on voit que son corps cellulaire qui relie le fuseau neuromusculaire à la moelle épinière est situé dans un ganglion rachidien. Ce neurone est dit en T à cause de sa forme. La fibre nerveuse reliant le fuseau au corps cellulaire est appelée dendrite. Cette partie reçoit l'information. La partie qui transmet l'information du corps cellulaire à la moelle épinière est appelée axone. L'axone arrive ainsi dans la moelle épinière par sa racine dorsale pour faire synapse à un dendrite d'un motoneurone dans la substance grise. Si on s'intéresse maintenant au motoneurone, son corps cellulaire est dans la partie antérieure de la substance grise de la moelle épinière. Alors que ses dendrites sont très courts, son axone est particulièrement long et en passant par la racine ventrale du nerf rachidien, il va faire synapse avec la fibre musculaire. C'est parce que ce réseau nerveux ne fait intervenir que deux neurones et une synapse entre les deux qu'il est qualifié de réflexe monosynaptique. Si je résume, le réflexe myotatique que vous avez testé en hexao et pour lequel vous avez mesuré finalement la distance parcourue et donc vous avez conclu que le centre nerveux était la moelle épinière constitue une argumentation clé du fonctionnement du système nerveux. Grand 2, du neurone au message nerveux. Grand A, les neurones. Donc attention, on va s'appuyer sur le réflexe aquiléen dans ce qui va suivre et aussi l'observation des neurones. Alors les neurones sont des cellules spécialisées dans l'acheminement du message nerveux. Ces cellules possèdent un ou plusieurs dendrites, un corps cellulaire et un axone plus ou moins long et parfois ramifié. Le message nerveux se propage en sens unique des dendrites vers l'extrémité de l'axone. Dans le cas du réflexe myotatique, trois types de neurones vont nous intéresser. Tout d'abord, des neurones sensitifs, appelés neurones en T, avec un dendrite long. Le corps cellulaire se situe dans le ganglion rachidien et l'axone vient faire synapse dans la substance grise de la moelle épinière. Des neurones moteurs, encore appelés motoneurones, qui partent de la substance grise de la moelle épinière, au niveau de la corne ventrale, dont l'axone est très long et va se ramifier au niveau du muscle par plein de petits boutons synaptiques que l'on appelle encore des plaques motrices. Des interneurones dont les dendrites et l'axone sont courts et établissent un relais entre un neurone sensitif et un motoneurone et dont la fonction est le plus souvent d'inhiber. Chez les vertébrés, certains dendrites ou certains axones peuvent être myélinisés, c'est-à-dire qu'ils possèdent une gaine de myéline interrompu à certains endroits réguliers qu'on appelle des nœuds de Ranvier. Cette gaine de myéline accélère considérablement la vitesse du message nerveux. Elle est élaborée par les cellules de Schwann qui entourent l'axone en dehors des centres nerveux. Dans les centres nerveux, ce sont des cellules spécialisées qu'on appelle des oligodendrocytes qui sont responsables de ces gaines de myéline. Alors justement, faisons une remarque importante. La différence de couleur dans la moelle épinière est liée à la présence de corps cellulaires et de myéline dans la substance grise. c'est la partie interne, ou uniquement de dendrites et d'axoniélisés dans la substance blanche, c'est la partie externe de la moelle épinière. À noter que c'est la même chose dans le cerveau, mais les zones sont inversées. La substance grise, le cortex, est plutôt externe, alors que la substance blanche est plutôt interne. Grand B, le message nerveux. Petit 1, potentiel de repos et potentiel d'action. Alors là, il faut vous appuyer sur les activités pour argumenter. Si on place des microélectrodes au contact d'une fibre nerveuse, cela nous permet d'enregistrer les variations électriques de cette dernière. Or, sans stimulation, on s'aperçoit que la membrane du neurone est polarisée, car il existe une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de l'ordre de 70 mV. L'intérieur est globalement électronégatif, alors que l'extérieur est globalement électropositif. C'est ainsi qu'on a donc comme valeur enregistrée moins 70 mV. Cette activité électrique de base, ou différence de potentiel transmembranaire, est qualifiée de potentiel de repos. Petit 2, modification au cours d'une stimulation, le potentiel d'action. Lors d'une stimulation, au niveau d'un neurone, on enregistre une différence de potentiel par rapport à l'état de repos. Ces modifications sont très brèves et constituent le potentiel d'action, par opposition au potentiel de repos défini juste avant. Il s'agit d'une inversion de polarisation transmembranaire. La face externe devient électronégative alors que la face interne devient électropositive. À un endroit donné de l'axone, cet événement est de l'ordre de la milliseconde et son amplitude environ de 100 mV. Mais attention, ça va varier d'un neurone à un autre. Alors si on veut aller plus loin, de quoi est fait ce potentiel d'action ? Alors tout d'abord, les différences ioniques à l'origine des potentiels. Le potentiel de repos est maintenu activement par des différences ioniques qui sont maintenues par des pompes qui consomment de l'énergie, c'est-à-dire de l'ATP. Ce sont des canaux sensibles aux différences de potentiel qui sont responsables du potentiel d'action. Ainsi, une ouverture du canal sodique entraîne une dépolarisation brutale, tandis que l'ouverture de canaux potassiques va créer une repolarisation et même une hyperpolarisation. Si plusieurs neurones sont associés en fibres nerveuses ou en nerfs, on peut enregistrer alors des amplitudes différentes par addition, mais chaque neurone possède une amplitude donnée constante. Petit 3, codage de l'information. Le potentiel d'action se propage de proche en proche, en sens unique, démarrant des dendrites, en passant par le corps cellulaire, puis en allant vers l'axone et à l'extrémité de l'axone. La propagation est très rapide, de l'ordre de 100 mètres par seconde, soit 360 km/h. Et ça constitue un moyen de communication d'urgence entre nos organes. Rappelez-vous, c'est important, parce que si vous mettez par exemple votre main sur une plaque incandescente, vous allez la retirer très rapidement, certes elle sera un peu brûlée, mais ne sera pas détruite. C'est donc notre moyen de communication d'urgence pour agir rapidement par rapport à la perception de notre environnement. Et chez les vertébrés, la conduction est améliorée grâce à la gaine de myéline. La propagation reste de proche en proche, sauf que cette fois-ci, ça va être par saut, de nœud de ranvier en nœud de ranvier. Et ça accélère considérablement le message nerveux. On parle alors de la théorie saltatoire de la propagation de l'influx nerveux. Si la stimulation varie au niveau d'un axone, on s'aperçoit que l'amplitude reste constante. En revanche, le nombre de potentiels d'action en fonction du temps va varier. L'information est donc codée en fréquence de potentiel d'action. Et ça, c'est très important, parce que vous n'allez pas réagir de la même façon entre une plaque qui est tiède et une plaque qui est incandescente. Il faut donc que votre message soit codé en fréquence de potentiel d'action en fonction de la stimulation. Vous aurez ainsi une réponse adaptée à votre environnement. Enfin, rappelez-vous qu'un nerf, c'est un ensemble d'axones ou de dendrites. Donc le message nerveux est codé par le nombre de fibres stimulées. C'est ainsi que vous avez des variations plus ou moins grandes en fonction d'un nerf. Mais le message se présente sous forme d'un potentiel global dont l'amplitude sera alors plus ou moins importante. Au niveau d'une synapse, attention, le message est codé lui en concentration de neurotransmetteurs. Et justement, allons voir comment cela se passe. Grand 3, le relais synaptique. Grand A, la structure d'une synapse. Une synapse est une petite interruption entre un axone d'un neurone et un dendrite d'un autre neurone, ou d'une cellule d'un organe, comme par exemple le muscle. Entre les deux éléments, on distingue donc un neurone présynaptique et un élément postsynaptique, que ce soit un neurone ou un muscle. L'espace synaptique ou fente synaptique est très réduit et varie entre 2 nanomètres entre deux neurones et 40 nanomètres selon la jonction, par exemple dans une jonction neuromusculaire. La membrane présynaptique est différente de celle postsynaptique et constitue ainsi une asymétrie. Du côté présynaptique, on observe des vésicules d'exocytose, de molécules chimiques appelées les neurotransmetteurs. Du côté postsynaptique, il existe à la surface de la membrane des récepteurs spécifiques à ces neurotransmetteurs, dont un que vous devrez connaître, qui est l'acétylcholine. Les neurones ont cela de particulier qu'ils constituent à la fois des cellules conductrices et sécrétrices. Quand on observe la jonction entre un neurone et une fibre musculaire, on s'aperçoit que l'influx nerveux est bien transmis au muscle et que ce dernier se contracte. La synapse concernée s'appelle alors plaque motrice et montre une organisation différente de la membrane postsynaptique. Alors voyons maintenant comment cela fonctionne. Grand B, fonctionnement d'une synapse neuroneuronale. Pour ce qui suit, il faut vous appuyer sur le schéma qui a été donné en cours et savoir le refaire par cœur. Alors les étapes de la synapse en action sont les suivantes. Tout d'abord, le potentiel d'action arrive à l'extrémité de l'axone qui est renflé en une formation que l'on appelle le bouton synaptique et qui contient des vésicules en grand nombre contenant un produit chimique, le neuromédiateur ou neurotransmetteur. En arrivant sur la partie renflée, le potentiel d'action ouvre des canaux calciques voltage dépendants situés dans la membrane de l'élément présynaptique et laissant entrer par diffusion des ions calcium en masse. Cette entrée de calcium crée des réactions biochimiques au terme desquelles les vésicules synaptiques qui étaient immobilisées au repos par un réseau de filaments protéiques se libèrent et viennent fusionner avec la membrane présynaptique, libérant ainsi dans la fente synaptique le neuromédiateur ou neurotransmetteur qu'elles contiennent. On parle alors d'exocytose, de l'exocytose par exemple de l'acétylcholine. Cette exocytose permet au neuromédiateur, et dans le cas du réflexe myotatique, je le rappelle, il s'agit d'acétylcholine, de diffuser dans la fente synaptique et d'atteindre les récepteurs spécifiques situés dans la membrane du neurone postsynaptique, c'est-à-dire juste en face. Une fois fixé à son récepteur, l'acétylcholine modifie la perméabilité de la membrane postsynaptique à certains ions, ce qui crée localement de petites variations de potentiel appelées potentiel postsynaptique ou PPS. L'avantage de ces potentiels postsynaptiques, c'est qu'ils sont capables de se sommer dans le temps. Ainsi, en se sommant, si l'élément présynaptique continue à alimenter la synapse en potentiel d'action, cette sommation temporelle peut être complémentée par une sommation spatiale due à plusieurs entrées simultanées sur l'arbre dendritique. Les neurotransmetteurs excédentaires dans la fente synaptique sont dégradés par une enzyme. Ici, c'est la cholinestérase par rapport à l'acétylcholine. Les produits de dégradation sont métabolisés et éliminés par voie urinaire. Ces produits, ou le médiateur lui-même, sont dégradés, peuvent être recapturés par la fibre présynaptique et recyclés pour une utilisation ultérieure. D'ailleurs, ce sont souvent les cellules gliales qui jouent un rôle prépondérant là-dedans. Ainsi, la concentration en acétylcholine constitue le codage de l'information au niveau de la synapse neuroneuronale. Alors en quoi une synapse neuroneuronale diffère-t-elle d'une synapse neuromusculaire. Grand B, fonctionnement d'une synapse neuromusculaire. L'axone d'un motoneurone innervant un muscle squelettique part du corps cellulaire du neurone dans la corne antérieure de la moelle épinière pour atteindre l'enveloppe du muscle. À ce niveau, il se ramifie et établit des synapses avec plusieurs fibres musculaires. On appelle ces synapses des jonctions neuromusculaires ou plaques motrices. Chez l'homme, chaque fibre musculaire ne possède qu'une seule synapse avec une branche d'un axone. Alors comment fonctionne cette synapse ? À la jonction neuromusculaire, le neurone moteur libère de l'acétylcholine, exactement comme précédemment le neurone vis-à-vis d'une synapse neuroneuronale. Le neuromédiateur se lie au récepteur de la membrane de la fibre musculaire, qui est donc l'élément postsynaptique, ce qui ouvre les canaux sodiques. L'entrée d'ions sodiques dépolarise alors la membrane de la cellule musculaire tout du long. Les dépolarisations se répandent alors le long de cette membrane de la fibre musculaire et pénètrent au sein des fibres musculaires par des tout petits tubules appelés tubules T. Les tubules T transmettent les impulsions à un récepteur voltage dépendant qui va permettre la libération du calcium par le réticulum sarcoplasmique. Et ce calcium va se lier à son tour à la fibre musculaire et permettre ainsi la contraction. Alors attention, les deux synapses sont à apprendre par cœur au niveau du schéma. Donc vous avez bien deux schémas à apprendre, celui de la synapse neuroneuronale et celui de la synapse neuromusculaire. Conclusion. Le réflexe myotatique est un réflexe monosynaptique. C'est bien sûr un test clinique qui permet de jauger le fonctionnement du centre nerveux, la moelle épinière. Au regard du muscle concerné, il met en jeu différents éléments. Un récepteur, un neurone afférent sensitif et un motoneurone efférent qui se branche sur le muscle. Ça mobilise aussi un interneurone qui inhibe le muscle antagoniste, à ne pas oublier. Tout cet ensemble constitue l'arc réflexe. Le neurone moteur conduit un message nerveux que l'on appelle potentiel d'action et qui peut être codé en fréquence de potentiel d'action pour gérer l'intensité de la stimulation. La commande de la contraction met en jeu le fonctionnement d'une synapse neuroneuronale et d'une synapse neuromusculaire dont les neurotransmetteurs, l'acétylcholine, sont codés en concentration en fonction de la stimulation. Alors attention à ce cours, il est allié au chapitre 2, le cerveau, exploration fonctionnelle, commande et fragilité, mais aussi à la contraction musculaire. J'espère que ce cours vous a plu et je vous dis à la prochaine fois.
Science de la vie et de la terre.